bivouac avec la compagnie L'Entreprise. Les artistes de la compagnie se racontent et racontent leur univers théâtral. Aujourd'hui, Catherine Germain, que l'on connaît sous les traits d'Arletty ou du masque de Pénazar.
Bonjour. Je me suis souvent retrouvée seule sur des scènes de théâtre, mais plus rarement pour une émission de radio. Mais c'est d'une solitude relative dont je vais vous parler, puisqu'il sera question à travers ma propre expérience de la relation entre l'acteur et le public, une relation à deux. C'est surtout pour comprendre ce qui a lieu quand nous nous rencontrons le temps d'un spectacle. Vous, dans la salle, et moi, sur la scène. Qui est dans l'obscurité? Qui est dans la lumière? Peut-être pas ceux qu'on croit. Pour essayer de répondre à ces questions, il est nécessaire de faire un retour en arrière. Après 20 ans de travail au sein de la compagnie L'Entreprise et quelques années de formation en amont à l'école de la rue Blanche, j'ai le sentiment d'avoir suivi un chemin plutôt qu'exercer un métier. Ce chemin, dans le théâtre, prend sa source dans le rapport à l'autre et la connaissance de soi. Au début, je m'inventais des vies. J'avais 7 ou 8 ans, j'étais timide et je jouais souvent seule à être quelqu'un d'autre. Et ce jeu était adressé à quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de moi. Déjà, la notion du public était là. Même si les premiers temps, sur une remorque en bois posée dans le champ dans la ferme de mes parents, je m'adressais aux saules pleureurs et aux oiseaux dans le ciel. Parallèlement à ces temps d'expression en plein air, je découvrais le public en chair et en os dans la salle de ma classe, à l'école, où la maîtresse nous faisait écrire des textes libres, à partir d'un sujet. Et ensuite, nous les lisions devant la classe. J'avais énormément de plaisir à sentir l'impact de certains passages sur le public. Je sentais bien que ça venait à la fois de ce qui était dit et de la manière dont je le disais. Moi qui étais chétive et très timide, j'y voyais là une revanche sur le destin. Je pouvais changer, je pouvais me métamorphoser, être différente de celle que j'étais, comme dans ces histoires que je m'inventais, où j'étais la fille de parents très riches qui s'étaient trompés et m'avaient laissé à ma famille présente, des paysans, mais que j'aimais par-dessus tout et dont je n'aurais pas supporté d'être séparée le jour où la vérité éclaterait. Voilà, jouer, c'était changer. Voyager du dedans vers le dehors. J'ai grandi avec ce plaisir du jeu des métamorphoses. J'avais envie, dans le regard des autres, d'apparaître toujours nouvelle, d'être une surprise. Quand, à l'adolescence, j'ai compris qu'il y avait un métier, celui d'acteur, qui pouvait me permettre de vivre ces sensations en permanence, j'ai voulu passer des concours, et là je suis entrée à l'école de la rue Blanche. C'est là, après 3 années de formation dans cette école de théâtre, que j'ai rencontré François Cervantes et son projet de fonder la compagnie L'Entreprise. J'avais 21 ans, et c'était le début d'une vie. Nous étions en Corrèze. La première création s'appelait Bar. Parallèlement aux répétitions, François nous faisait découvrir des textes qu'il avait déjà écrits. L'un d'eux m'avait particulièrement touchée. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. En fait, il reliait ma vie d'enfant à la ferme, dans ma découverte du théâtre, à cette recherche que j'allais mener quelques années plus tard derrière des masques et qui allait profondément orienter ma vision du théâtre, en lui redonnant une fonction originelle. Voilà le texte du comédien dont il est question. Dans mon village, je me souviens qu'il y avait un comédien. Je l'appelle comédien maintenant, mais à cette époque, je n'en avais jamais vu. Aucune troupe n'était passée chez nous, aucun montreur d'ours. Notre village était à flanc de montagne et le chemin pour y arriver était peu praticable.
De plus, les habitants avaient la réputation de ne pas savoir rire. Ma grand-mère m'avait raconté que cette réputation datait de l'époque où un habitant du village, descendu dans la vallée, se trouvait sur la grand-place lorsqu'un nain était passé. Il n'avait jamais vu de nain de sa vie. Tout le monde sur la place riait, sauf lui. En rentrant, il avait raconté à ma grand-mère qu'il venait de voir un ange ayant perdu ses ailes et marchant maladroitement, déguisé avec des habits d'homme, et que les gens de la vallée riaient beaucoup, sans doute parce qu'ils avaient l'habitude de voir des anges avec des ailes et que celui-ci leur paraissait ridicule. Mais pour lui, qui n'avait jamais vu d'ange de sa vie, en apercevoir un, même ayant perdu ses ailes, c'était extraordinaire. Et il avait écarquillé les yeux jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la foule. Donc, depuis ce temps-là, les gens de notre village avaient la réputation de ne pas savoir rire, et aucune troupe ambulante ne s'était aventurée chez nous. Mais il y avait le fils de Tanga, qui n'avait jamais pu travailler comme les autres hommes du village. À l'adolescence, comme son père était mort depuis 2 ans et qu'il était le seul fils de la famille, on avait accepté qu'il reste chez lui. Ses sœurs me racontaient que le soir à la maison, il allumait des bougies, les faisait asseoir en rond et apparaissait avec des costumes empruntés et des traces de charbon, de sang de poule et de farine sur le visage. Parfois elle semblait effrayée, d'autres fois réjouie, mais toujours leurs yeux brillaient quand elle me parlait de leur soirée de la veille. Je brûlais de curiosité et je n'étais pas le seul. Peu à peu, tout le monde avait été mis au courant et le feu qui brillait au fond des yeux des jeunes sœurs nous avait attirés comme des animaux de nuit. Dans la journée, le fils de Tanga dormait ou rêvassait sur une chaise. La famille avait accepté et elle le cachait. Mon père avait fini par lui demander d'organiser une soirée pour tout le village. Il s'était sauvé, effrayé. Mais quelques jours plus tard, il avait fait savoir par ses sœurs que nous pourrions nous rendre chez lui le soir même. À 19h, une 50aine de personnes attendaient devant la porte de la petite habitation de Tanga. La maîtresse de maison avait ouvert la porte, effrayée par cet attroupement qui la gênait autant que nous. Mais il y avait dans ses yeux, comme dans les nôtres, une complicité inexplicable. Elle avait dit presque à voix basse que la salle principale de la maison ne pouvait accueillir plus de 10 personnes. Personne n'avait osé ajouter un mot. Les 10 premières personnes avaient baissé les yeux, un étrange sourire sur le visage. Les autres avaient salué et s'étaient retirés, avec pour la première fois dans notre village la sensation qu'elle ne rentrait pas chez elle. J'avais eu la chance de faire partie de ces 10 personnes. La pièce était basse de plafond et presque vide. La femme nous avait désigné des coussins, rapidement, sans un mot, puis s'était assise, elle aussi. Il me semblait qu'elle avait besoin de regarder l'espace vide devant elle pour être soulagée de notre présence, et nous de même. Devant nous, quelques bougies faisaient danser la pièce. Le fils de Tanga était apparu. Son visage était méconnaissable. Nous retenions tous notre souffle. Cette créature était montée sur une chaise, puis elle avait prononcé quelques phrases dont je me suis toujours souvenu. L'oiseau voit les toits et le bout de ses ailes. L'homme voit la porte et le bout de ses bras. Le papillon voit le feu et puis il ne voit plus. Puis il avait disparu après avoir fait quelques gestes. La maîtresse de maison nous avait invités à nous retirer et chacun était parti de son côté, incapable de parler. Le lendemain, tout le monde parlait de cette soirée. La femme de Tanga et ses filles se promenaient inquiètes, incapables de comprendre, comme nous, d'ailleurs, l'engouement de tous pour les agissements du fils. Mon père essaya de le persuader de venir faire une soirée dans la grande salle du lavoir. Il accepta. Le seul jour possible était le dimanche, puisque personne ne travaillait. Mais le curé nous rappela sévèrement que seuls les bêtes et les hommes de Dieu pouvaient travailler le dimanche, et qu'il demandait aux dirigeants du village de prendre une décision face à une situation qu'ils ne supporteraient pas. Le maire, comme nous tous, avait une envie démesurée du spectacle, et en échange d'une somme conséquente, il réussit à faire accepter publiquement à la femme de Tanga que son fils était une bête. La représentation eut lieu.
Le courant qui circule entre la scène et le public est de l'ordre de la respiration. Transmission des pensées, inspiration, expiration. Et le sens qui se dégage de la soirée est insufflé par la qualité du silence. Ce silence qui est palpable entre l'acteur et le public. Même quand un acteur parle qu'il est en mouvement, on reçoit, et lui aussi au même moment, le silence qu'il continue à dégager. Ce qui s'échange est au-delà des mots et des apparences. En tant qu'actrice, je suis l'interprète d'une langue étrange que je reçois de l'ombre, de l'invisible. Car dans ce silence, qui est celui de la rencontre présente avec le public, des pensées circulent. Elles n'appartiennent à personne en particulier. Mais elles circulent parce que les théâtres sont des lieux où elles peuvent se faire entendre, si on sait les écouter. Le public ne vient pas écouter un acteur en particulier, mais il lui est reconnaissant d'être un bon interprète de cette langue qui nous dépasse, celle du dedans, de nos origines et de notre devenir. Cette langue qui n'est accessible qu'à ceux qui acceptent de tomber dans le vertige du présent absolu et qu'à cette condition seulement l'acteur pourra restituer. Je passe mon temps à nous écouter, vibrer ensemble. Et je traduis par mon corps cette métamorphose que provoque en moi notre rencontre. Je vais vers l'inconnu, vers vous, public. Je me jette dans le vide, comme je me jetterais dans vos bras. Et je sens bien que si je vous laisse cette place, vous la prenez. Au fond, au même instant, nous faisons tous la même chose, mais de façon différente. Nous pistons la vie. Le théâtre est un art de l'instant. Il nous met au monde si nous sommes prêts à nous laisser embarquer. L'échange entre le public et l'acteur est du même ordre qu'un échange amoureux. Nous nous transportons, nous nous déplaçons ensemble et nous donnons vie à du sens, celui qui éclairera l'œuvre dont il est question dans le spectacle. Le battement cardiaque entre la scène et la salle entraîne certaines fois des suspensions étranges.
Je n'ai pas rêvé. Un jour à Madrid, au lycée français où nous jouions La curiosité des anges, il s'est passé une chose étrange pendant la représentation. C'était peut-être ce qu'on appelle le passage de l'ange. Tout était silencieux et immobile entre le public et les clowns. Mais ce n'était pas un silence et une immobilité connus. Je ne pourrais pas dire combien de temps cela a duré, mais c'était vertigineux, comme si nos âmes s'étaient mises d'accord, absolument toutes, au même moment, pour se toucher les unes les autres. L'instant se prolongeait de manière impudique dans un silence de chair. Et puis arrive un temps, comme dans les rêves où notre mort va être imminente, quelque chose nous réveille et nous ramène à nous, comme s'il ne fallait pas pénétrer davantage certains territoires de l'être. Mais autant il est compréhensible de goûter seul un instant de révélation, autant lorsqu'il s'agit d'une assemblée réunie, le phénomène est bouleversant. Peut-être suis-je la seule à avoir vécu ce moment. Mais comment est-ce possible, sur scène, en pleine lumière, au vu de tous et de mon partenaire, d'aller faire un tour dans l'arrière-pays de ma conscience pendant qu'une autre partie de moi continuait à jouer? Aujourd'hui, ce souvenir est encore très présent en moi, et François Cervantes a pu me confirmer que quelque chose de cet ordre s'était passé ce jour-là, lui qui était à la régie du spectacle. Les acteurs connaissent des instants de grâce, c'est vrai. Des instants où ils ont la conscience aiguë de surfer sur une vague d'inspiration qui leur donne une liberté de jeu nouvelle. Ce sont des instants de grande agilité, où l'art de l'acteur se dilate, guidé par des forces extérieures. Dans le cas évoqué, il ne s'agissait pas de grâce artistique, mais d'autre chose, puisque tout s'arrêtait. Nous ne savions plus rien. Je n'étais pas guidée. J'étais seule, et chacun de nous était seul, et à tous nous étions seuls, dans le creux, dans le vide, dans le fond. C'était dangereux comme l'ivresse des profondeurs, mais c'était là. Et ça a duré juste assez pour que je ne l'oublie pas et qu'aujourd'hui encore je poursuive mon chemin sur les scènes de théâtre à la recherche de ce vertige partagé. C'est un moment qui a existé, je l'ai vécu, j'y ai eu accès, je le retrouverai.
Catherine Germain, bivouac avec la compagnie et l'entreprise.
Il est nécessaire de recevoir quelque chose d'une soirée de théâtre, d'en sortir changé, d'avoir agrandi sa connaissance de soi. Il y a ce qu'on reçoit individuellement et ce qu'on reçoit ensemble, parce qu'on a formé un public à tous ce soir-là. Le public est une communauté qui ne se connaît pas avant d'entrer dans la salle. Là, je m'adresse à vous par les ondes de la radio, et cette parole, vous la recevez dans la solitude de votre journée. Dans une salle de théâtre, chacun rentre seul, mais peut repartir rassemblé. Se sentir nombreux est une sensation troublante. Le mystère d'un public de théâtre, c'est qu'il n'a lieu que le soir de la représentation. Et on ne sait jamais comment il aura lieu. La réussite, entre guillemets, d'un public, son accord, sa composition, est très variable. Aussi inattendue que le jeu de l'acteur. L'un et l'autre s'épanouissant ensemble au fur et à mesure de la représentation. Certains soirs, le public forme un unisson. Je me dis que ces soirs-là, le plaisir que reçoit un spectateur en sortant est augmenté par cette sensation d'avoir agrandi son corps à la taille d'une salle entière. D'autres fois, tout est éclaté. Chacun est resté dans son coin, isolé, parfois même perturbé par son ou ses voisins de rangée. Le silence pour que quelque chose ait lieu n'a pas été rendu possible. Soit parce que l'acteur n'a pas eu l'énergie suffisante pour désarmer les plus bruyants, soit parce que les intentions de certains en venant s'asseoir dans l'obscurité d'une salle ce soir-là étaient particulièrement guerrières et agressives. Sur scène, on reçoit très vivement la chaleur d'un public. Son amour, mais aussi son hostilité, voire son rejet. Ce n'est d'ailleurs pas forcément quelque chose qui concerne toute une salle. Ça peut être par zone, dans l'espace du gradin. Zone froide. Souvent, il m'est arrivé d'avoir la sensation d'être dans une arène où la chute de l'acteur est tout autant souhaitée que son envol. L'acteur se prête à ce jeu de cobaye humain qu'on voit s'agiter dans la lumière et qui répond comme un animal étrange à nos instincts les plus cachés. Certains moments ont des allures de corrida, quand le public réagit physiquement par des soupirs, des sons d'encouragement, à certaines phrases, comme pour une passe bien exécutée. C'est autre chose que des rires. C'est plutôt un instant d'extrême présence, comme un corps à corps entre le public, l'acteur et le sujet. L'attention du public participe autant que le jeu de l'acteur à la justesse d'une phrase. L'un et l'autre sont serrés ensemble comme dans un tango. Et à cet instant-là, la poésie transperce d'un coup l'espace-temps de la représentation. Dernièrement, en jouant le voyage de Pénazard à la Friche, j'ai entendu comment les phrases tombaient dans la chair des spectateurs. C'était audible. J'entendais des gémissements, comme des râles. Je voudrais vous faire entendre maintenant les impressions de Anne, comédienne et spectatrice fidèle des spectacles de la compagnie.
Juin 2000 ou 2001, je ne sais plus exactement. Depuis près de 15 ans, je ne vais plus au théâtre. Je suis fâchée avec le théâtre. Marre d'être déçue, d'entendre un langage poli ou provocateur pour cultureux, loin du travailleur plein de sueur, de cambouis, de terre, d'huile pour friteuse, de javel, bref, les déceptions continuelles et le décalage avec ma vie ont usé mon goût de spectatrice. Le dernier merveilleux spectacle que j'ai vu était le Mahabharata, mis en scène par Peter Brook, et surtout avant la conférence des oiseaux. Je suis restée avec ça ou rien. J'étais à Marseille. Béatrice, une amie chère, me dit « Va voir ce spectacle, je t'assure. » Et combien de fois on m'avait dit « Va voir ce spectacle. » Bon, j'y vais, mais parce que avant, j'ai entendu la comédienne parler de son travail. C'est elle, en fait, qui m'a décidée, qui m'a donné envie d'aller voir ce spectacle. C'était le voyage de Pénazard. C'est là que j'ai rencontré la compagnie L'Entreprise. Je n'ai plus quitté leur spectacle. J'entends un langage, j'entends un chemin. Un langage. Pendant leur spectacle, je me sens, moi, public, partie prenante de l'aventure. Je suis prise en compte. Le désir de notre rencontre n'est pas fictif. J'ai l'impression que les pièces sont écrites avec nous. Quand François Cervantes dit dans son petit discours à la fin « Nous avons besoin de vous », je ne me sens pas bernée. Je sens que c'est vrai. Mars 2006, les clowns. À côté de moi, il y a un ado. Je ne le connais pas. Il est bizarre. Il me dévisage tout le temps pendant le spectacle, des fois longuement. Je le vois dans la pénombre. À un moment, je me suis demandé qui c'était ce type. Et puis j'ai compris qu'il partageait. Il me regardait quand il riait, quand il parlait, parce qu'il parlait tout haut. Il avait envie qu'on soit de mèche. Ça ne me dérangeait pas. Je l'ai compris. J'aurais peut-être aimé faire comme lui si je n'avais pas appris qu'au théâtre, on se tait pour ne pas déranger. Quand le spectacle est fini, souvent, les commentaires m'obligent à un atterrissage brutal. Dans les spectacles de l'entreprise, j'aime déguster longtemps ce qu'il me laisse, le lien intérieur avec des espaces intimes, et quand, bien après, j'en parle avec d'autres, ils ont ressenti la même chose. Quand je sors des spectacles de l'entreprise, je me dis que c'était ça que j'attendais du théâtre. Un langage qui parle au-delà de toute culture, de toute langue, ou plutôt qui les inclut toutes. Je voudrais parler de Catherine Germain. Ce qui m'a étonné, c'est que quand elle sort des coulisses et vient rejoindre les spectateurs, restés souvent en buvant quelque chose, on dirait quelqu'un qui sort de la douche. Pourtant, je suis sûre qu'elle est lessivée, justement, mais elle arrive, elle s'est changée pour nous retrouver, disponible, radieuse. Vraiment, on dirait quelqu'un qui sort de la salle de bain pour rejoindre des amis. Sa présence avec nous dégage la même chose que sa présence sur scène. C'est comme s'il n'y avait pas de frontières. Pas de coupure dans sa disponibilité, et pourtant ce n'est pas la même apparition. Elle joue comme dans la cour de récréation. À mon époque, dans la cour de récréation de l'école, nous jouions à la marelle, et je me souviens de cet état où nous étions à notre jeu autant en dehors que en dedans de la marelle. Nous avions juste une attention en plus, en équilibre, debout sur un pied, pour pousser la boîte de pastilles en fer sur les cases. Eh bien, elle, c'est pareil. On dirait qu'elle sort et qu'elle rentre dans les cases de craie avec la même joie. C'est un jeu. Les spectacles de la compagnie restent profondément dans le domaine du jeu, un plaisir à passer de l'un à l'autre, de l'attention extrême quand il le faut, à la disponibilité simple pour en parler, et n'avoir fait que jouer pourtant. C'est une chose contagieuse, c'est une chose qui, moi, dans le public, me réjouit, me touche par résonance, comme d'un instrument de musique à l'autre. C'est peut-être ça le plus particulier, cette résonance. Le spectacle, le concert, est celui qui m'a le plus touché à cause de ça. Il raconte et fait vibrer en même temps la dissonance, la résonance, l'accord, et ouvre toutes ces questions dans ma pensée par ce qui sonne à mes oreilles. Je ne suis pas dupe. Je me doute bien que toute cette grâce vient d'un travail très particulier, d'un artisanat subtil et poussé. C'est ce qui réconcilie en moi le monde du théâtre et du travail.
Thank you.
Le travail d'instrumentiste. Oui, c'est un travail. Je l'ai ouvert surtout au moment de la découverte du masque. Et je dois dire que ce sont derrière les masques que j'ai appris le plus à comprendre le public. Puisque le masque n'existe que dans l'œil de celui qui le regarde. J'ai besoin, donc, quand je porte un masque, de me mettre à la place de celui qui est devant, c'est-à-dire du public, à votre place. Pour vivre, le masque a autant besoin de l'acteur qui l'anime que du public, qui est le miroir de cette mise en vie. À deux, acteurs et spectateurs, nous travaillons de concert. C'est pourquoi je tenais à ce que vous entendiez un texte de François Cervantes qui s'appelle « Conseil à un acteur », mais qui, au fond, s'adresse à chacun de vous quand vous êtes spectateur à regarder le masque. C'est ce travail que vous faites, vous aussi, dont il s'agit.
Le masque a une forme et une couleur. Il n'a que cela. Toi, tu as envie d'aller vers lui. Mais pense que lui a envie d'aller vers toi. Que pour lui, ton sang et ta chair sont un mystère et un miracle. Tu ne peux travailler que si tu crois que le masque est au moins aussi vivant que toi, même s'il n'a pas de corps. Si tu te penses seul en vie, arrête de travailler. Le masque n'est pas intéressé par ton histoire personnelle. Ce sont des surcharges et des scories pour lui. Il te veut comme matière, comme véhicule terrestre. Donne-toi à lui si tu veux, si tu penses que c'est juste, si tu sens qu'il saura ce qui est bon pour toi et qu'il ne te fera pas de mal. Il faudrait que tes émotions, que tes pensées, ton intelligence, ta voix, ton corps prennent la même forme que le masque. Est-ce que tu peux jouer avec ton intelligence? Est-ce que tu penses que ton intelligence est immuable? Ou est-ce que tu peux la sculpter comme un sculpteur travaille un bloc de terre? Peux-tu donner une forme à ton intelligence? Tout est dans la forme. Tout est superficiel, c'est le mystère du masque. Tu dois sculpter ce qu'il y a de plus profond en toi. Considérer que ce qui te paraît le plus profond, le plus personnel, n'est qu'une matière que tu peux travailler pour lui donner une forme. Et si tu donnes tout au masque, il te faut bien aller quelque part. Il te faut bien trouver une maison. Essaie de la trouver dans la conscience de ce que tu fais. On ne sait pas ce que c'est que la conscience. Peut-être que c'est une chose constante. Enfin constante. Enfin une maison. Nous, sur Terre, nous ne sommes que des blocs de terre qu'il faut sculpter, garder à la bonne température, avec le bon degré d'humidité pour pouvoir travailler. Nous avons tout à sculpter, y compris nos émotions et notre intelligence. Le masque, comme tous les objets, nous donne une leçon de constance et de patience. La chaise était une chaise hier et elle le sera demain. De même pour ce masque qui n'a pas changé, qui a gardé la même forme et les mêmes couleurs, qui nous attend avec sa patience de masque. Il est très professionnel, aussi fort hier que demain. Nous avons perdu des millions de cellules, nous avons vieilli, nous avons eu des peines et des joies. Nous sommes aussi informes et inconstants que les nuages, alors même que nous portons ce rêve de constance et de beauté. Le masque peut nous aider, lui qui est sculpture. Il peut devenir sculpteur de notre corps, si nous lui donnons tout avec confiance et avec foi, si nous le choisissons comme guide et comme confident, pas de notre intimité, mais de notre vie. Pas la peine d'avoir des problèmes de conscience, nous n'avons pas de conscience. Le masque nous dira ce qui reste de profond une fois que nous aurons tout mis à la surface. Nous serons sûrement étonnés de ce qui reste. Il ne faut pas avoir peur qu'il ne reste rien. Il ne faudrait pas avoir peur d'aller voir. Acceptez ce voyage.
Au début d'un spectacle, il y a dans l'air le désir et la peur. Pour le spectateur, il y a le désir qu'il se passe quelque chose le concernant profondément, mais aussi la peur qu'il ne lui arrive rien encore une fois. Pour moi qui entre sur le plateau, mon désir est lié au fait que je me suis préparée pour ce rendez-vous. Alors, j'ai l'intuition que nous allons nous aimer. J'ai pour cela longuement travaillé la vibration du sujet dans mon corps pour le faire sonner au mieux. En même temps, j'ai peur, maintenant que je suis à ce rendez-vous, là, dans la lumière, de ne plus être capable de me souvenir de ce que j'avais à dire, à faire, d'être comme dans des cauchemars, à ouvrir la bouche sans qu'aucun son ne sorte. J'ai peur de ne plus savoir comment faire pour faire sonner mon instrument, peur que le public soit un peuple de barbares décidés à en découdre avec moi, si ce que je fais n'est pas vivant, comme dans les jeux du cirque de la Rome antique où l'on donnait des hommes en pâture aux lions pour satisfaire l'appétit du public. Il y a comme cela des élans très anciens qui nous rattrapent quand nous allons entrer dans la lumière, et que chacun porte en lui, sans le savoir, depuis le jour où pour la première fois des hommes se sont mis en cercle pour en regarder d'autres agir dans de curieuses circonvolutions et capter leur attention. Voilà. J'aurai certainement encore beaucoup de choses à dire sur le rapport entre le public et la scène. Je vais continuer à y réfléchir et à évoluer dans cette relation qui est source d'épanouissement. En attendant de vous retrouver dans une salle de spectacle, je vous laisse cette phrase de Kawabata, un écrivain japonais qui me guide, qui me sert depuis longtemps comme guide. Tout artiste qui aspire au vrai, au bien et au beau comme objet ultime de sa quête est fatalement hanté par le désir de forcer l'accès difficile du monde des démons. Et cette pensée, qu'elle soit apparente ou dissimulée, hésite entre la peur et la prière.
Radio Grenouille invite la compagnie L'Entreprise pour un bivouac. Aujourd'hui, le bivouac a été signé par Catherine Germain. À la technique, Sébastien Gély.